Dans l'étude du catholicisme, nous passons maintenant à l'étude du protestantisme. Alors, nous allons aborder ce soir une partie historique qui évidemment sera un résumé de ce que nous vivons en histoire de l'Église. Mais il est difficile de parler du protestantisme sans faire référence à l'histoire. Si bien qu'on verra le minimum au point de vue histoire, mais on verra tout de même ce qui est absolument nécessaire pour pouvoir comprendre les origines et finalement la pensée profonde du protestantisme. D'abord, si vous voulez, quelques mots d'introduction. La première chose qu'il faut dire quand on parle du protestantisme, c'est que ce dernier ne se présente pas comme une religion ou une église nouvelle, mais comme une réforme de l'église. D'où l'expression, n'est-ce pas, la réforme. C'est une réforme de l'église d'Occident. L'église d'Orient, c'est-à-dire l'église orthodoxe, ne connaît absolument aucun phénomène semblable. Le protestantisme est une réforme de l'église qui a pris naissance dans l'église d'Occident à la fin du Moyen-Âge, disons au début des temps modernes. Cette réforme se voulait d'ailleurs, dans la tradition des autres tentatives de réforme qui avaient marqué l'histoire de l'Église catholique au Moyen-Âge en particulier, notamment au XIIIe siècle. Le XIIIe siècle avait été un siècle qui avait été marqué par différents mouvements de réforme, par exemple la réforme de Jean Hus en Bohême, le mouvement vaudois. On hésite à parler des cathares dans la mesure où il est encore assez mal élucidé historiquement le problème de savoir si le catharisme était ou non finalement une religion chrétienne ou une autre religion. Et bien qu'il y ait eu communauté de destin au XIIIe siècle entre les cathares et les vaudois, si bien qu'il y a eu un certain nombre de points communs, certainement au point de vue pensée aussi, il faut mettre le mouvement cathare entre parenthèses. Mais par contre, la réforme est directement branchée sur le mouvement vaudois, et quelques années après la réforme, les vaudois qui avaient été persécutés se rallieront à la réforme et adopteront les thèses principales de la réforme, reconnaissant que finalement la réforme était l'aboutissement du mouvement qu'ils avaient lancé deux siècles plus tôt. Il faut aussi citer la tentative de réforme à Florence de Savonarole, le moine qui a été brûlé vif. On a l'occasion de revenir sur toutes ces choses-là. Je ne détaille pas exprès parce qu'on verra tout ça en histoire de l'Église. Le XIIIe siècle, début du XIIIe siècle, avait été marqué par la réforme de Bernard de Clairvaux, qui avait donné naissance à tout un courant monachique qui avait été canalisé, comme nous l'avons vu quand nous avons vu le catholicisme, dans le monachisme, mais qui au départ aussi était une tentative de réforme de l'Église. Donc il ne faut pas s'étonner si au XVIe, nous trouvons un nouveau mouvement de réforme. Et un nouveau mouvement de réforme, ah j'ai oublié aussi une racine très importante de la réforme des anabaptistes. Ces gens qui remontent au moins à l'époque des Vaudois, si ce n'est plus, et qui déjà avaient redécouvert le principe du baptême des adultes, si bien qu'on les appelait anabaptistes, c'est-à-dire rebaptiseurs. En fait, ils n'étaient pas des rebaptiseurs, mais bien des baptiseurs. Et ce mouvement anabaptiste donnera naissance aux baptistes tout court. Ce sont les ancêtres des baptistes tels que nous les connaissons aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez, toutes les différentes racines, auxquelles la réforme du XVIe va venir puiser. Maintenant, les conditions religieuses et politiques de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance sont aussi un climat, un terreau tout à fait favorable pour l'éclosion de la réforme. C'était une époque qui était véritablement un temps marqué par Dieu. Il y a des temps comme cela où les cœurs sont préparés à une action du Saint-Esprit Et le monde de la fin du Moyen-Âge, l'Europe de la fin du Moyen-Âge, était tout à fait disposée à recevoir le message de la réforme. On peut dire que ce message de la réforme, s'il a évidemment été, comment dirais-je, s'il y a eu un certain nombre de figures de proue, Luther, Calvin, Zwingli et d'autres, n'est-ce pas, est tout de même un mouvement quasiment spontané, qui va se répandre comme une traînée de poudre dans l'Europe du XVIe, parce que les cœurs étaient assoiffés de quelque chose. D'abord, l'Église du Moyen-Âge, ou plutôt l'Église du XVIe, sortait discréditée d'un certain nombre de siècles de conflits entre l'Église et l'État. L'État, il faut entendre essentiellement le Saint-Empire romain germanique, les querelles entre les papes et les empereurs, qui avaient vu des choses absolument burlesques, avaient quelque peu discrédité le système ecclésiastique dans l'esprit de tous les chrétiens sincères qui cherchaient véritablement le Seigneur. D'autre part, le monde de la fin du Moyen-Âge était profondément marqué par le problème de la mort. C'était le XIIIe en particulier qui avait été marqué par les grandes épidémies de peste qui avaient décimé plus d'un tiers de la population de l'Europe. Et l'Europe de cette période-là vivait dans une grande angoisse et s'interrogeait sur le salut. Que fallait-il faire pour pouvoir être sauvé? La question du salut était vraiment la question primordiale dans l'Europe du XVIe siècle. La question que pratiquement tout le monde se posait. Évidemment, c'est un genre de condition qu'on aimerait bien voir aujourd'hui, où précisément la question du salut ne se pose plus pour la majorité de nos contemporains. Par contre, au XVIe, c'était la grande question. Comment être sauvé? Et la réforme sera justement une réponse à la fois à cette angoisse face à la mort et à l'au-delà, et face à cette question du salut. Donc c'est un mouvement, peut-on dire, qui a éclaté de manière tout à fait spontanée, parce que cela correspondait à un besoin des cœurs. Pourquoi le terme de protestant? En fait, c'est un terme qui, encore aujourd'hui, dans le monde protestant, entre guillemets, ne fait pas l'unanimité. Il y a deux étymologies possibles au mot protestant, qui a été, comme très souvent d'ailleurs, un mot qui a été appliqué aux partisans de la réforme par leurs adversaires. Il y a eu dans les différentes querelles qui ont marqué les débats théologiques aux origines de la réforme, un colloque au cours duquel les partisans de la réforme ont adressé aux participants du colloque un certain nombre de protestations. Ce qui fait que ceux qui ont reçu ces interpellations ont appelé ceux qui les interpellaient les protestants. Et le terme leur est resté. Maintenant, il y a aussi une autre étymologie. Ce serait un mot qui serait formé de deux mots, pro-testant. Tester, en vieux français, ou même protester d'ailleurs, c'est témoigner. N'est-ce pas? Protester, témoigner en faveur d'eux. Et il faudrait voir dans l'expression protestant ceux qui témoignent en faveur de leur foi. Et dans le sens qui était celui du Nouveau Testament, n'est-ce pas, Marturios, ceux qui témoignent jusqu'au martyr. Et l'histoire du protestantisme sera en effet un long martyrologue. Maintenant, dans les pays germaniques, jusqu'à aujourd'hui, les protestants, entre guillemets, n'emploient pas ce terme. En Allemagne en particulier, et en Scandinavie, mais surtout en Allemagne, ils portent le nom d'évangélique. Évangélique égale protestant dans les pays germaniques. Enfin, il y a une troisième branche du protestantisme qui refuse, elle, clairement et nettement le mot protestant, c'est l'anglicanisme, qui se donne comme quelque chose de tout à fait original dans le concert, en quelque sorte, des différents mouvements qui ont marqué la réforme du XVIe, mais qui néanmoins se reconnaît comme héritier, justement, de cette réforme du XVIe. Donc nous pouvons dire que, au sens large, sont protestants tous les mouvements qui trouvent dans la réforme du XVIe leur origine spirituelle. Ce qui regroupe pas mal de gens, et notamment tous les différents mouvements évangéliques. Maintenant, à cause de cette interférence qui marquait le Moyen-Âge entre l'Église et l'État, la réforme au XVIe, aux origines en tout cas, est à la fois un mouvement politique et religieux. Alors, évidemment, pour notre mentalité du XXe, c'est quelque chose qui est choquant. Mais dans le contexte de l'époque, ça l'est de soi. Ce n'était même pas envisageable de remettre ce système de l'alliance entre l'Église et l'État en question. Ceux qui le feront, ce sont les anabaptistes. Et précisément pour avoir refusé, ou pour avoir finalement rêvé d'une autre relation entre l'Église et l'État, eh bien ils seront horriblement persécutés. Et les différents mouvements qui naîtront de l'anabaptisme, finalement, eh bien, seront à l'origine aussi d'une création, d'un certain nombre de mouvements politiques tout à fait originaux qui donneront naissance, par exemple, à la démocratie américaine. Alors, voyez-vous comment ce mouvement de la réforme a non seulement des conséquences religieuses, mais également des conséquences politiques. Et je dirais qu'il a aussi des conséquences sociales. Même s'il ne faut pas trop pousser ce dernier point, il faut tout de même admettre, et nous verrons pourquoi, à cause de l'esprit protestant, que l'essor industriel qui va marquer justement le monde de la Renaissance, et puis les temps modernes finalement, est à la base, n'est-ce pas, beaucoup de protestants, et à un esprit protestant qui l'anime. Bon, nous aurons l'occasion de revenir sur toutes ces choses. Maintenant, dans les origines de la réforme, il faut citer aussi un autre courant extrêmement important qui ne se confond pas avec la réforme, mais sur lequel la réforme est quand même greffée. C'est le mouvement humaniste qui va marquer le monde de la Renaissance, le monde du XVIe en particulier. Cette époque où soudain on redécouvre la valeur de l'homme qui avait été quelque peu occultée pendant le Moyen-Âge. L'homme en tant qu'individu, par conséquent, non pas en tant que simplement un dans une masse, dans un ensemble qui est régi par un seigneur, par exemple, tel que cela a été conçu dans le système féodal de l'époque du Moyen-Âge, mais c'est l'essor de la pensée, si vous voulez, qui valorise l'homme en tant qu'individu. Et cette valorisation de l'homme en tant qu'individu amène aussi à une sorte de rejet de tout un système philosophico-politique, si vous voulez, qui avait marqué le Moyen-Âge, avec le thomisme en particulier, nous avons l'occasion de revenir sur toutes ces choses-là, la pensée de saint Thomas d'Aquin qui avait modelé le catholicisme du Moyen-Âge, pour revenir aux sources. Le mouvement humaniste, c'est un mouvement de retour aux sources. Le Moyen-Âge s'était abîmé dans la philosophie scolastique, c'est-à-dire une philosophie qui était faite de déductions, de raisonnements, à partir d'un certain nombre de prémices, et qui faisait que l'on avait tendance à s'éloigner de plus en plus des sources pour étudier ceux qui avaient disserté sur les sources. Alors, par exemple, on partait de la Bible, mais on n'étudiait plus la Bible. On étudiait les pères de l'Église qui avaient commenté la Bible. Et puis ensuite, on étudiait les docteurs de l'Église qui avaient commenté les pères de l'Église. Si bien que, de système en système, on arrivait finalement, à baser ses certitudes sur les commentaires des commentaires des commentaires des commentaires. Et le mouvement humaniste a dit, il y en a assez, Nous, nous voulons court-circuiter tous ces commentaires, tous ces intermédiaires, pour revenir aux sources. Et la redécouverte des sources a été de deux types. D'abord, la redécouverte des sources de l'Antiquité gréco-latine, c'est l'époque où l'on redécouvre les grands auteurs latins, grecs, etc. C'est l'époque où on délaisse aussi le latin au profit des langues dites vulgaires, et une littérature en langue vulgaire commence à apparaître dans les différents pays d'Europe, n'est-ce pas ? Et en même temps, bien entendu, il y a le désir de redécouvrir les textes sacrés. Jusqu'alors, les rares exemplaires de la Bible qui étaient à la disposition du public étaient des copies de la Vulgate, c'est-à-dire la Bible latine, qui était la Bible officielle de l'Église d'Occident. Et voici que, à partir du XVIe siècle, le mouvement humaniste s'est mis à étudier la Bible dans les textes originaux, grecs d'abord. Et au XVIe siècle, Érasme, un érudit en grec, a publié la première édition critique du Nouveau Testament grec, c'est-à-dire qu'il faisait table rase justement de tous les commentaires pour essayer de cerner le plus près possible le texte original de la Bible. Et puis aussi, on s'est mis à étudier l'hébreu, et par conséquent, à redécouvrir les manuscrits hébraïques de l'Ancien Testament. Et cette confrontation entre un certain nombre de chrétiens assoiffés de vérité, assoiffés d'un retour aux sources, et puis la parole de Dieu, qui était comme redécouverte, a produit, si vous voulez, le même effet que ce qui s'était passé en Israël lorsque Josias a redécouvert le livre de la Torah dans le temple. Ça a été à peu près le même choc et le même bouleversement. Par exemple, Luther a redécouvert les grandes doctrines qui sont les siennes au travers de l'étude du Nouveau Testament grec d'Érasme. Et il basera sa traduction de la Bible allemande, qui est encore aujourd'hui la Bible officielle de l'Église luthérienne d'Allemagne, n'est-ce pas, sur le texte grec d'Érasme. Érasme qui d'ailleurs n'a pas embrassé la réforme. À cette même époque, un autre élément va aussi contribuer énormément à la propagation de la réforme, c'est la découverte de l'imprimerie. Jusqu'alors, la littérature était quelque chose d'extrêmement rare parce que les livres coûtaient une fortune. Ils étaient écrits à la main, copiés, et par conséquent, c'était extrêmement difficile d'avoir une bibliothèque chez soi. Par contre, avec la découverte de l'imprimerie par Gutenberg, et vous savez que le premier livre qui sera imprimé, ce sera justement la Bible, c'est pas le premier livre que Gutenberg imprimera sera la Bible, et bien maintenant, cette découverte révolutionnaire va permettre la propagation de la parole de Dieu. Et il est tout à fait étonnant de voir dans le plan de Dieu comment ce grand mouvement de la réforme, qui répondait à la fois à cette soif des cœurs, Dieu a fait concourir toutes choses pour ce moment-là. C'était vraiment le moment où quelque chose allait se passer à l'heure de Dieu. Soif des cœurs, redécouverte de la Bible dans les textes originaux, et troisièmement, découverte de l'imprimerie qui allait permettre cette grande diffusion de la parole de Dieu et faire à nouveau de la réforme, comme le judaïsme autrefois, la religion du livre. Et c'est alors que va se produire ce coup de tonnerre de la réforme. Bien, les circonstances sont connues, le détonateur va être connu, on nous y reviendrons, un moine, Martin Luther, dans la solitude de son monastère, comme beaucoup de ses semblables, est tourmenté par cette question du salut. Face à tout ce fardeau d'intermédiaires, de prescriptions que l'Église catholique avait imposé pour le salut, il est de plus en plus tourmenté, il est de plus en plus angoissé. Avec toute l'application de son être, d'un être d'une nature passionnée, il va s'efforcer de mettre en pratique toutes les instructions de l'Église pour essayer d'obtenir son salut, de mériter son salut. Et puis, il se découvre sans cesse pécheur, malgré tous ses efforts. Et cette découverte tragique le conduit au bord du désespoir. Il s'en ouvre à plusieurs de ses confesseurs qui ne peuvent pas l'aider. Et alors, il se jette à corps perdu dans la lecture de la parole de Dieu. Et puis, là, il découvre, au travers de la lecture de l'Épître aux Romains en particulier, soudain, ce trait de lumière, cette grande révélation qui reçoit dans son cœur, l'homme est justifié par la foi seule. Et ça, c'est la découverte centrale de Luther. Ça, c'est la pierre angulaire de la réforme. Le salut se reçoit par la foi sans les œuvres. Et les œuvres viennent comme conséquence de la foi, comme conséquence du salut, et non pas comme condition du salut. Si bien que le chrétien, au lieu d'être un être perpétuellement angoissé, perpétuellement dans la crainte, se demandant toujours s'il en aura fait assez, et donc paralysé, même pour le service de Dieu, va maintenant être un homme libre. Libre parce qu'il sait que, en Christ, ses péchés sont pardonnés. Libre par conséquent de se consacrer à Dieu pour témoigner et pour le servir. Voilà la grande révolution qui va s'opérer dans la vie de Luther. Luther dès sa découverte pendant quelque temps, et puis en 1517, nous avons l'occasion déjà d'en parler, c'est l'affaire des indulgences. Au moment de la construction de la cathédrale Saint-Pierre à Rome, le pape proclame une indulgence et il envoie des missionnaires dans toute l'Europe prêcher l'indulgence et en même temps ramasser des fonds qui vont permettre de construire la cathédrale Saint-Pierre. Et un des envoyés du pape, un certain Tetzel, arrive à Wittenberg, où se trouve Luther, et le dimanche, quelques dimanches suivants, il prêche l'indulgence, avec des envolées lyriques tout à fait intéressantes, disant que dès que les pièces de monnaie touchent le fond de sa tirelire, les âmes s'envolent du purgatoire. Luther, qui écoute dans l'assistance ce sermon émouvant, n'y tient plus. C'est tellement en contradiction avec ce qu'il a découvert dans la parole de Dieu que, eh bien, le dimanche suivant, il saute le Rubicon, si je peux dire. Le jour de la Toussaint, il affiche sur les portes de la cathédrale de Wittenberg 95 thèses qu'il a longuement mûries dans la présence du Seigneur, dans l'étude de la parole de Dieu. Et qui sont finalement l'essentiel de la réforme. Bien sûr, toute la doctrine de Luther n'est pas encore élaborée dans les 95 thèses, mais on y trouve déjà l'essentiel. Le salut totalement gratuit, reçu par la foi seule, l'incapacité totale de l'homme de mériter quelque chose, quoi que ce soit devant Dieu, la contestation de l'autorité de l'Église au profit de l'autorité de la seule parole de Dieu, avec tout ce qui en découle, donc l'indulgence, le culte des statues, etc., etc. Tout déjà se trouve là, affiché sur les portes de la cathédrale de Wittenberg. C'est une manière assez classique à cette époque-là de se faire connaître, en quelque sorte. C'est pas de temps en temps comme ça, quand quelqu'un avait quelque chose à dire, il affichait un certain nombre de textes sur les portes de la cathédrale du lieu où il était. Mais il est évident que l'affichage des thèses de Luther fait grosse impression. Et immédiatement, quelque chose se passe. Je passe sur les détails qui vont suivre, mais Luther est interpellé, sommé de s'expliquer par ses supérieurs. Après un certain nombre de débats nombreux, il en appelle au pape, demandant au pape la convocation d'un concile pour réformer l'Église. Convaincu qu'il est que, finalement, le pape n'est pour rien dans cette affaire et qu'il est en quelque sorte manipulé par des gens comme Tetzel ou autres, mais que dès qu'il saura la vérité, eh bien, il mettra de l'ordre là où il y a besoin d'être. Et Luther ne veut pas rompre avec le catholicisme, il veut simplement une réforme de l'Église et la convocation d'un concile œcuménique. En fait, un tel concile ne peut pas se tenir à cette époque-là pour des raisons politiques. C'est l'époque des guerres entre les différents États de l'Europe chrétienne, si bien qu'il n'est pas possible, politiquement parlant, de convoquer un concile. Maintenant, quand bien même cela eût-il été possible, reste à savoir si les autorités religieuses de l'époque l'auraient souhaité. En tout cas, un tel concile n'a pas lieu et le pape, bien loin de se ranger du côté de Luther, le condamne. Dès lors, Luther risque de connaître le sort de Jean Hus. S'il ne se rétracte pas, il risque d'être condamné et brûlé vif. C'est le sort qui avait été celui de Jean Hus, par exemple. Mais Luther a une très très large audience là où il se trouve et bientôt ses thèses et sa pensée se répandent dans toute l'Allemagne, notamment auprès d'un certain nombre de princes. L'Allemagne de cette période-là est divisée en un certain nombre d'États qui sont théoriquement vassaux de l'empereur, mais en réalité qui jouissent d'une très très large autonomie et qui, au besoin, n'hésitent pas à se révolter contre l'empereur, d'autant que la tutelle de l'empereur leur semble quelque peu lourde, si bien que parmi les princes d'Allemagne, un certain nombre vont prendre parti pour Luther, notamment le grand électeur de Saxe, qui va devenir le protecteur attitré de Luther, et qui, parmi ces princes, certains certainement étaient très sincères, d'autres étaient plus politiques, voyez, une occasion aussi de secouer le joug de l'empereur dans ce mouvement de la réforme. Si bien que, comme je disais tout à l'heure, dès le départ, la réforme est quelque peu mélangée avec la politique du temps, et ça va l'empêcher aussi d'avoir sa pleine liberté. Parce que Luther va hésiter, par exemple, à remettre en question le baptême des enfants. Bien que, par la parole de Dieu, il était quasiment convaincu que le baptême des enfants n'était pas le baptême biblique. Mais à ce moment-là, ça eût été remettre en cause un principe important des assises de la société de l'époque, c'est-à-dire ce slogan que Philippe va tout de suite comprendre, « Cuius regio, cuius religio », ce qui veut dire, en bon latin, en patois, comme on dirait, la religion du roi doit être aussi la religion du citoyen, du sujet. Quoi. C'est une traduction un peu libre, mais c'est ça en gros que ça veut dire. Par conséquent, si on introduit le baptême des adultes, alors ça veut dire que chacun a la liberté de choix. Ce qui veut dire que dans un même État, il pourrait y avoir des sujets protestants et des sujets catholiques. Et ça, Luther hésite à franchir ce pas parce qu'il perdrait l'appui des princes. Et ça va être une des très très graves lacunes de la réforme que cette compromission permanente entre les pouvoirs religieux et les pouvoirs politiques, mais les choses pouvaient-elles être autrement ? On peut en discuter. Si Luther n'avait pas joui de la protection des princes, que serait-il advenu de la réforme ? Vraisemblablement, Luther aurait été condamné et mis à mort. Que serait-il advenu de la réforme à ce moment-là ? On peut se le demander. Toujours est-il qu'avec des si, on met Paris dans une bouteille, si bien qu'on ne fait pas d'histoire-fiction, mais l'histoire telle qu'elle est. L'histoire a été ce qu'elle est, c'est-à-dire, finalement, cette compromission entre l'Église et l'État dès le départ de la réforme. Donc, en 1520, Luther est excommunié, après s'être expliqué devant la diète et d'avoir fait cette magnifique déclaration, où après avoir été sommé de se rétracter, il a demandé 24 heures de réflexion, qu'il a passé en prière. Et il y a eu cette entrevue dramatique de Luther devant toute la diète rassemblée, avec l'empereur lui-même, Charles Quint, les grands princes de l'Église d'Allemagne, les cardinaux, etc. Et sommet de se rétracter, Luther a dit « Si je ne suis pas convaincu par la parole de Dieu, parce que c'est la seule autorité que je reconnaisse, je ne reconnais ni l'autorité du pape, ni l'autorité des conciles, ni l'autorité de la tradition, je ne veux connaître que l'autorité de la parole de Dieu. Si vous arrivez à me convaincre par la parole de Dieu, je suis prêt à me rétracter. Si vous ne me convainquez pas par la parole de Dieu, alors je maintiens ce que j'ai avancé. Que Dieu me soit en aide. » et il sort. Alors un tumulte épouvantable dans la diète, mais il jouissait de la protection de son ami, le grand électeur de Saxe, si bien qu'on ne met pas la main sur lui. Bon, je passe sur l'histoire de Luther proprement dite, pour dire que les idées de Luther se répandent comme une traînée de poudre. Non seulement en Allemagne, mais très vite en France. En France, où le mouvement humaniste battait son plein. Et notamment, c'est l'époque où, après l'invention de l'imprimerie, un certain Lefebvre d'Étaples venait d'imprimer la Bible en français. Lui-même n'était pas acquis aux idées de Luther, mais il en était très proche. Et en France, dans les grandes universités en particulier, dans l'intelligentsia française, on discutait beaucoup des thèses de Luther. C'était l'époque où le clivage n'était pas encore très net entre partisans de la réforme et adversaires, où pratiquement tout le monde était pratiquement acquis aux thèses de Luther. Donc l'institution de la hiérarchie, la transmission apostolique, les pouvoirs du pape, tout découle de là. Alors, les réformateurs ont sapé ça à la base. Par contre, Luther, qui était un homme, nous l'avons vu, qui était dans une situation politiquement quelque peu délicate, n'a pas tranché d'une manière absolue. Et il a émis ce qu'on appelle la doctrine de la consubstantiation, qui est encore la doctrine officielle des églises luthériennes dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a présence du Seigneur dans les espèces, avec les espèces, mais sans qu'elles se confondent avec les espèces. C'est une matérialisation sans qu'il y ait transformation, si vous voulez, du pain et du vin dans le corps du Seigneur. Mais la présence est là. Calvin dit que ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu. Maintenant, bien sûr, étant à la droite de Dieu, il a la possibilité de manifester sa présence partout. Et chaque fois que nous prenons la communion, le Seigneur est présent. Mais c'est une présence spirituelle et non pas une présence matérielle. Calvin rejette toute matérialisation. Par contre, Zwingli, lui, va encore plus loin. Il rejette même cette présence spirituelle du Seigneur pour dire ce n'est qu'une commémoration, ce n'est qu'un symbolisme. Le mouvement de Zwingli va disparaître assez vite dans le concert de la Réforme, mais la doctrine de Zwingli sur la communion symbole va être prise par certains mouvements calvinistes un peu outranciers. Si bien qu'on la trouve encore, cette doctrine large, dans certains milieux, même évangéliques éventuellement, certains frères larges et autres, mais c'est allé trop loin. C'est pas la position de Calvin sur la question de la Sainte Cène est la position qui nous paraît la plus biblique et la plus exacte, la plus équilibrée et la plus vraie. Donc, si vous voulez, voilà les grands clivages qui vont exister entre les différents mouvements de la Réforme. Maintenant, il faut parler du monde anglo-saxon. Que se passe-t-il dans le monde anglo-saxon? Eh bien, d'abord, le monde anglo-saxon est quelque peu divisé. Il y a deux grands États qui se querellent entre eux, l'Angleterre et l'Écosse. L'Écosse, qui a toujours été très proche de la France, au point de vue culturel, et qui subit très rapidement les idées de Calvin. En particulier, l'apôtre de l'Écosse est John Knox. John Knox qui va se dresser contre la reine Marie Stuart, ultra-catholique, et qui était un homme d'une extraordinaire puissance spirituelle, un homme de prière et un homme de foi, un homme qui n'a pas hésité à braver toute la puissance de la reine et toute la puissance de l'Église catholique qui était derrière elle. Et on prête à Marie Stuart ce témoignage, je crains plus les prières de John Knox que toutes les armées de la reine d'Angleterre. Si bien que très vite l'Écosse va basculer dans la réforme calviniste, et jusqu'à aujourd'hui l'église officielle d'Écosse est l'église presbytérienne, c'est-à-dire l'église réformée, l'église calviniste. En Angleterre, c'est-à-dire dans la partie sud de la Grande-Bretagne, les choses vont être un petit peu différentes. À l'époque, règne sur le trône d'Angleterre un roi qui est loin d'être un exemple, Henri VIII, glouton, ripailleur, débauché. C'est le prototype de Barbe Bleue. Il a eu 7 ou 8 femmes auxquelles il a fait couper le cou joyeusement les unes après les autres. Et notamment, cet Henri VIII s'était marié avec une fille du roi d'Espagne, Catherine d'Aragon. Et puis, quelques années plus tard, il est tombé amoureux d'une de ces dames, comment dirais-je, de cour, Anne Boleyn. Et il a demandé au pape la possibilité de divorcer de sa première épouse, Catherine d'Aragon, pour pouvoir épouser Anne Boleyn. Bon, comme il n'y avait pas d'autre motif valable que ça, son péché, pratiquement, le pape lui a refusé tout naturellement ce divorce. Plutôt, ce n'est pas un divorce, c'était une annulation, une invalidation de son mariage sous toutes sortes de mauvais prétextes. Bon, alors Henri VIII a dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, c'était l'époque où la réforme battait son plein, eh bien, je coupe avec Rome. Et il s'est proclamé chef de l'Église d'Angleterre, pape de l'Église d'Angleterre. Il a fait la loi. La première décision qu'il a prise en tant que chef de l'Église d'Angleterre, ça a été de prononcer l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon et d'épouser en grande pompe Anne Boleyn, à laquelle il a fait couper le cou quelques années plus tard. Comme réforme, évidemment, il y a mieux. Et ça a été l'origine de l'anglicanisme. Cette église a pris le nom d'église d'Angleterre, nom qu'elle porte encore aujourd'hui, dont les souverains d'Angleterre, jusqu'à aujourd'hui, sont les chefs officiels. C'est-à-dire que la reine d'Angleterre, actuellement, comment est-ce qu'on peut dire, la cheftaine de l'église d'Angleterre et de toute l'église épiscopale du monde entier qui en découle. On appelle anglican donc l'église d'Angleterre et épiscopaux les gens qui se rattachent au courant anglican mais qui ne sont pas anglais, notamment aux États-Unis. Mais c'est la même église en fait, hein. Exactement comme réformés presbytériens. On appelle réformés les églises calvinistes d'Europe et presbytériennes les églises calvinistes anglo-saxonnes, hein, d'Angleterre et des États-Unis. Mais c'est la même église. C'est l'Église réformée. Lorsqu'il y a eu schisme entre Henri VIII et Rome, sur le plan de la doctrine, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, il y avait quand même dans l'Église d'Angleterre des gens qui étaient un petit peu plus évangéliques que le roi, et notamment, là, après la mort d'Henri VIII, lorsque sa fille Élisabeth Ier est arrivée sur le trône d'Angleterre. Élisabeth était une femme qui était très croyante finalement et qui a poussé l'Église vers l'adoption des thèses de la Réforme. Si bien que sur le plan de la théologie, l'Église d'Angleterre est devenue pratiquement calviniste, notamment à partir de 1533. Il y a eu deux grands actes qui ont marqué le passage de l'Église en Angleterre à la Réforme. L'adoption des 42 articles, qui sont aujourd'hui encore la charte de l'Église d'Angleterre, qui sont tout à fait réformés. Et puis un livre de prière qu'on appelle le Common Prayer Book, qui est le livre de prière officiel de l'Église d'Angleterre jusqu'à aujourd'hui. Non, vous ne savez pas? Qu'est-ce que. Bloquez-moi s'il y en a qui ne savent pas. Non. 1533, c'est l'adoption des 42 articles de la charte de l'Église d'Angleterre et du Common Prayer Book, le livre populaire de prière, qui est aujourd'hui encore le livre officiel de l'Église d'Angleterre. Par contre, dans la mesure où, à l'inverse de ce qui s'était passé en Europe continentale, la rupture avec Rome n'avait pas été aussi brutale et aussi nette, l'Église d'Angleterre a gardé la structure hiérarchique de l'Église catholique, c'est-à-dire division avec les trois composantes, diacre, prêtre et évêque, avec organisation diocèse, paroisse, etc., etc., nommée d'en haut par l'archevêque d'Angleterre, qui est l'archevêque de Canterbury, en principe avec la décision du pouvoir civil, le roi ou la reine. Bon, aujourd'hui, la reine n'exerce plus qu'un pouvoir tout à fait théorique et nominal et honorifique. Le pouvoir est détenu par l'archevêque de Canterbury. À ce niveau-là, donc, la structure hiérarchique a été conservée dans l'Église d'Angleterre. Si bien que l'Église d'Angleterre, l'Église épiscopale, si vous voulez, refuse le terme protestant, parce que justement, elle a un statut un peu mixte. Sur le plan de la théologie, elle est protestante, et sur le plan de la structure et de l'organisation d'Église, elle est catholique, sans accepter évidemment toutes les conséquences, c'est-à-dire la reconnaissance du pape et d'autorité de Rome. Bon, voilà, si vous voulez, je crois que sur le plan historique, s'il y a peut-être encore quelques petites choses à dire. Peut-être, si vous voulez, comment le protestantisme s'est répandu en Europe, à partir du XVIe. Alors, la répartition géographique, grosso modo, le calvinisme s'est répandu dans les pays de langue française, c'est-à-dire la France, la Suisse, puis d'autres pays qui étaient proches, les Pays-Bas en particulier, qui seront un grand, grand bastion calviniste jusqu'à aujourd'hui, et la Hongrie, assez curieusement. Le luthéranisme sera surtout présent dans les pays germaniques, l'Allemagne, la Suisse alémanique et la Scandinavie. Toute la Scandinavie va être profondément marqué par le luthéranisme, qui est la religion officielle jusqu'à aujourd'hui. Dans la région de Zurich, nous aurons Zwingli, mais ce sera assez limité, car non seulement Zwingli avait des idées particulières sur la Sainte-Seine, mais également sur les relations avec le pouvoir civil. Il pensait, à l'inverse de Calvin, que le pouvoir civil et le pouvoir religieux pouvaient faire bon ménage, à condition que le pouvoir civil soit républicain. Enfin, c'était assez curieux. Enfin, il n'y a plus personne aujourd'hui pour professer ça. En même temps, la réforme s'est propagée en Italie et en Espagne, notamment chez la propre épouse du roi d'Espagne de l'époque, Jeanne, que l'on a appelée la folle, qui n'était pas folle du tout, mais que l'on a fait passer pour folle parce qu'elle avait adopté la réforme. À l'inverse de ce qui s'est passé dans les autres pays d'Europe, en Italie et en Espagne, la réforme, dès le départ, va se trouver bloquée et contrée par une opposition catholique extrêmement résolue et extrêmement organisée de la part, notamment, des pouvoirs politiques. Si bien que, dans ces deux derniers pays, la réforme aura finalement assez peu d'impact et assez peu de succès. Quelques années plus tard, les différents mouvements issus de la réforme éprouvent le besoin de se structurer et de, en quelque sorte, dialoguer pour établir, face au catholicisme de plus en plus menaçant, une base commune. Si bien que dire que la réforme a toujours été morcelée, c'est faux. La réforme est diverse d'abord par sa théologie, et nous verrons comment, sa vision de l'Église. Sa vision de l'Église exclut absolument le centralisme romain, ce qui, pour le catholicisme, est la marque de l'unité. Ce qui ne veut pas dire que, dès le départ, le protestantisme n'ait pas eu le souci de son unité. Et en particulier, on trouve, au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, un grand, grand moment de l'unité du protestantisme, qui est le colloque de Marbourg, au cours duquel les représentants donc, de toute l'Europe se retrouvent et adoptent 15 articles de base qui sont, en quelque sorte, les conditions minimales d'appartenance au mouvement protestant, mouvement réforme, de la réforme. En même temps, au colloque de Marbourg, et c'est tout à fait regrettable, les trois composantes, donc les calvinistes, les luthériens et les partisans de Zwingli, prennent position contre les millénaristes et les anabaptistes. Il faut dire que les anabaptistes à cette époque-là et les millénaristes avaient fait pas mal pour ça. C'était l'époque où ces anabaptistes, qui avaient été des gens extrêmement équilibrés jusqu'alors, avaient découvert les dons de l'esprit, les dons charismatiques, mais malheureusement, vous savez, les dons charismatiques, c'est aussi quelque chose de dangereux. S'il n'y a pas des docteurs, s'il n'y a pas des apôtres pour conduire les choses dans ce qu'elles doivent être, il y a des risques de déraillement. Et c'est ce qui s'est produit dans le mouvement anabaptiste du 16e. Il y a eu des déraillements. Les anabaptistes étaient des gens qui étaient allés très très loin, puisqu'ils avaient non seulement redécouvert les dons de l'esprit, la certitude du retour de Jésus avec le règne millénaire de Christ, d'où le nom de millénariste qu'on leur donnait, mais également les idéaux de pauvreté, de simplicité évangélique qui avaient conduit à l'implantation de nombreuses communautés. Des communautés dont nous sommes un peu les héritiers d'une certaine manière. Et nous sommes vraiment, nous, les héritiers de ces gens-là, à cause de ces trois composantes qui sont les nôtres. Mais à cette époque-là, il y avait eu des débordements inacceptables sur le plan charismatique, par exemple. On faisait dire à l'esprit n'importe quoi, tant et si bien que Luther, discutant avec les anabaptistes, est allé jusqu'à leur dire « Je lui cogne sur le nez à votre esprit. » Je laisse le franc parler de Luther pour dire qu'il ne croyait pas du tout à ces pseudo-révélations, et il avait raison parce que ça n'en était plus. Et puis alors, il y a eu ensuite des mouvements politiques qui ont surgi de l'anabaptisme, et les anabaptistes ont été réprimés dans un véritable bain de sang auquel Luther a donné sa bénédiction. Ce qui est d'ailleurs assez discutable de la part de Luther. Et il est tout à fait dommage que, dès le départ, il y ait eu, entre ce que l'on pourrait appeler l'aile évangélique de la Réforme, qui avait d'ailleurs précédé la Réforme, parce que les anabaptistes existaient bien avant, et puis la Réforme proprement dite, ce clivage au départ. Mais enfin, les choses sont ce qu'elles sont, et on ne peut pas changer les choses. Donc, si vous voulez, peut-être encore un mot sur le 17e, très rapidement. Bon, je crois qu'il faudra laisser ça pour la prochaine fois, parce que ça nous entraînera trop loin. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions à poser sur cette rapide historique de la réforme du 16e ?
Les anabaptistes sont arrivés comment ?
Ben, on ne sait pas. C'est assez mystérieux, l'origine des anabaptistes. En fait, il semble bien qu'il y ait eu, dans toute l'histoire de l'Église, depuis le 2e siècle, c'est-à-dire depuis ce qu'on appelle la réforme montaniste. Montanus était un évêque d'Afrique du Nord qui avait essayé de réagir déjà contre les abus de son temps, et notamment contre la disparition des dons charismatiques. Tertullien, par exemple, s'était, à la fin de sa vie, rallié au montanisme, père de l'Église très important. Et c'était des gens qui, aussi, il y a eu un certain nombre d'excès, c'est toujours un peu le problème quand il y a des mouvements charismatiques, si bien que les pères, les évêques, les patriarches officiels de l'Église officielle avaient réagi contre les montanistes et ils avaient été abominablement persécutés par l'Église déjà à ce moment-là, si bien que le mouvement s'était presque éteint. En fait, il semblerait que ça ait continué à exister souterrainement et que ce mouvement ait réapparu ça et là à certains moments, et notamment au Moyen-Âge, au travers des anabaptistes. Je pense que ce serait là l'origine des anabaptistes. Si bien qu'il y aurait toujours eu, finalement, dans l'Église, même aux pires périodes d'apostasie du Moyen-Âge, un certain nombre de gens qui auraient maintenu le témoignage de l'Évangile véritable.
Mais on en entend parler de ces anabaptistes au temps de la réforme ou un peu avant?
Ah oui, déjà au 13e, ils étaient très importants.
Ouais, mais dans quelle région?
En Allemagne, surtout, en Allemagne, en Europe centrale. On en trouve aussi dans les pays bohémiens, etc., sous le nom de Bogomil, c'est-à-dire, fidèle de Dieu. Bodje en russe, ça veut dire Dieu, n'est-ce pas? Bog, oui, c'est ça. Enfin, dans toutes ces langues-là. Bogomil, donc, les amis de Dieu, quelque chose comme ça, et qui serait très très proche des anabaptistes. Mais aussi des gens qui ont été abominablement persécutés. C'est un bain de sang permanent dans ces mouvements. Terrible.